Je vous avise déjà, ne vous étonnez pas s'il y a du bruit et puis si la nénette, Néma, aboie durant l'enseignement. Ce matin, il semble qu'il va y avoir des travaux devant la maison avec la question du réseau électrique métropolitain ou je sais pas trop, là, le REM qu'on appelle. Donc, ce matin, de bonne heure, depuis 7h30, il transportait des choses en passant devant la maison. Donc, ne soyez pas étonnés si vous entendez la demoiselle aboyer. Encore une minute. Le lundi, le réveil est un peu plus difficile pour certains. Le pasteur Sergio m'a annoncé hier que l'enseignement de mercredi allait aller aussi un peu en partie dans le même sens qu'on a abordé hier matin, donc on s'en et qu'on aborde cette semaine. On s'en réjouit, il n'y avait rien d'arrangé entre nous, rien de planifié en ce sens entre nous, mais le Seigneur conduit les calendriers et les échéanciers de sorte que les enseignements concordent. Donc c'est une très bonne chose. Alors on va prier, après ça je reprends un peu les directives pour cette semaine. Seigneur, nous te bénissons pour cette semaine qui débute, pour cette première occasion qu'on a en ce lundi 22 mars de poser nos regards dans ta parole et d'en être édifié, abreuvé, nourri. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle de nos vies et parce que tu contrôles effectivement notre calendrier et tu contrôles Seigneur la nourriture même spirituelle à laquelle nous sommes soumis. Alors merci Seigneur pour cette parole que tu avais préparée de toute éternité, que tu avais pensée et que tu savais nécessaire pour aujourd'hui. Alors je prie que ma sœur, que mon frère, que moi-même, nous ayons l'esprit ouvert pour recevoir ta parole, que nous puissions Seigneur saisir ta pensée et que nous puissions Seigneur nous conformer à celle-ci, que nos cœurs Seigneur soient dociles à ta voix. Que notre volonté soit soumise à ta volonté, afin qu'en toute chose, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quelles que soient les circonstances ou les contextes qui peuvent être nôtres, nous te demandons, Seigneur, d'avoir cette mainmise sur nous et de travailler sur nos vies, de nous façonner, de nous transformer, de nous changer, et de permettre, Seigneur, qu'avec l'apport de cette nourriture spirituelle de cette semaine, lorsque nous arriverons à vendredi, qu'il y ait déjà des changements qui se soient opérés, qu'il y ait déjà des décisions qui aient été prises dans l'intimité de nos cœurs, mais avec des résultats tout à fait palpables, tangibles et visibles, non seulement de ce côté-ci de l'éternité, mais aussi, Seigneur, pour tout le temps que nous passerons avec toi, dans ta présence, dans l'éternité. Alors, en toute chose, que ton nom soit élevé, que toute la gloire te revienne, et que ton unique volonté soit accomplie. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, cette semaine, on va approfondir donc l'enseignement de dimanche. Et comme vous avez vu, dimanche, on s'est baladé entre deux passages. Le passage traditionnel du Jubilé dans Lévitique au chapitre 25. Mais on a aussi étudié un passage connexe important dans Deutéronome 15. Et c'est justement avec ce passage qu'on va étudier une bonne partie de notre partage de cette semaine. Donc pour ceux qui prennent des notes, c'est effectivement dans Deutéronome 15, les versets 1 et 2. Et puis jeudi, on retournera un peu dans Lévitique 25 pour conclure la semaine. La thématique de ce passage, qu'on va bien sûr relire dans quelques instants, c'est l'affranchissement ou la rémission des dettes. Donc quelqu'un qui, à l'époque de l'Ancien Testament, qui dans le peuple juif avait des dettes, je vais baisser mon volume, Siri qui veut parler en même temps que moi, Donc je lui coupe le claquet. Voilà. Donc quelqu'un qui avait des dettes avait des recours. Il y avait des lois dictées par Dieu qui faisaient en sorte qu'aux 7 ans, toutes les dettes étaient remises. Donc lorsqu'on prenait un prêt, lorsqu'on faisait un emprunt, on devait avoir remboursé cet emprunt ou on planifiait le remboursement en dedans de 7 ans. Et si, pour X raisons d'incapacité à rembourser ce prêt, s'il arrivait qu'après les 7 ans, ou qu'au terme des 7 ans, le prêt n'avait pas été remboursé dans son entièreté, ben on effaçait la dette. Et comme on l'a mentionné hier, l'effacement des dettes peut, dans un sens plus large, nous parler aussi du pardon. Et lorsque je méditais encore quelques instants avant de venir en onde tout à l'heure, je parlais, oui, je réfléchissais en moi-même, je disais, oui, on va parler effectivement du pardon, comment on accorde notre grâce à quelqu'un, comment on est appelé à accorder notre grâce à quelqu'un. Mais vous savez comme moi que le pardon n'est pas simplement accordé pour quelque chose qu'on nous a fait, quelque chose qu'on a dit à notre encontre, mais parfois aussi c'est pour des choses qu'on n'a pas fait ou des prises de position qu'on n'a pas eues à notre égard. Disons que vous êtes quelqu'un qui rendait énormément de services. Il arrive que certaines personnes qui rendent des services sans le demander, mais espèrent malgré tout à un moment donné un retour. Et se frustrent si la personne à qui ils ont offert un service, avec le temps, les mois passant, voire les années passant plutôt, ils ne voient pas un retour sur leur investissement, ben là, ils se frustrent. Et dans le cas d'avoir une dette, ben la dette peut aussi être j'ai reçu des services et je n'ai pas rendu l'appareil à l'autre. Donc lorsqu'on rend un service, il faut aussi être capable de pardonner, il faut aussi être capable d'effacer la dette. Même si ce n'est pas une dette financière, même si ce n'est pas une dette au niveau pécunier, mais il nous faut être aussi capable de pardonner la dette de celui auprès duquel on a offert un service. Alors c'était simplement peut-être un préambule pour élargir votre compréhension du pardon et votre compréhension de la dette. Alors je lis pour vous dans Deutéronome au chapitre 15, les versets 1 et 2, et voici ce que la Bible nous dit. Donc Deutéronome 15, verset 1, tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne le pressera pas il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Donc le verset important pour aujourd'hui, le verset 1, tous les 7 ans, tu feras le relâche. Simplement spécifier ce que j'ai spécifié hier, et je ne le ferai pas tous les jours, mais pour ceux qui n'étaient pas là hier et qui entendent relâche au masculin, sachez que ce n'est pas une erreur de grammaire, ce n'est pas une erreur de syntaxe ou autre. Le relâche, à la base, était un mot masculin. Lorsqu'on parle du relâche au niveau féminin, la relâche, c'est en fait un terme très technique, nautique et maritime, pour le transport de biens au niveau d'un paquebot, d'un bateau. Lorsqu'un bateau accoste à quai et qu'il décharge sa cargaison, c'est là qu'on parle de la relâche. Et là, c'est un terme effectivement féminin. Mais dans les origines du mot relâche, c'était un terme masculin qu'on a dans le langage usuel, plus contemporain, féminisé, notamment en ce qui a le trait à ce qu'on appelle la relâche scolaire. Donc, une interruption ou la fin de quelque chose. Peut-être parce qu'interruption et fin sont en soi des termes féminins. Donc, on a associé relâche et on l'a mis comme un terme, un mot aussi féminin. Mais à la base, relâche était un terme masculin. Donc, aujourd'hui encore, et j'y vais ici, deux mots importants. Le relâche. Le terme shemitah, S-H-E-M-I-T-T-A-H, qui arrive 25 fois dans l'Ancien Testament. Donc, Shemitah, S-H-E-M-I-T-T-A-H. Et le deuxième terme qui nous dit qu'on doit publier l'année du relâche. Donc, la publication, encore une fois, un terme qui m'est très cher, que vous avez souvent entendu à travers les derniers mois dans ma bouche, le terme kara, Q-A-R-A, Q-A-R-A. Et là, c'est publier ou invoquer, mais on va revenir en toute fin de séance aujourd'hui sur cette terminologie ou sur ce terme. Donc, Shemitah, quatre déclinaisons de ce terme-là. Lorsque un juif entendait le terme Shemitah à l'époque, voici cinq déclinaisons que ça revêtait pour l'auditeur qui parlait hébreu à l'époque. Donc, je vous énumère les mots et après ça, on va les détailler de façon individuelle ou respective. Donc, Shemitah, relâche pour remise, libération, pardon, fin des exactions et fin de la rétribution. Et en anglais, ce qui est intéressant, c'est que dans le verset qu'on a étudié, que lorsqu'on va parler du Shemitah à un moment donné, qui revient à quelques reprises dans le texte qu'on a lu, il va être utilisé en anglais dans la version King James par le terme exacts, qui veut dire donc faire une exaction, donc la fin des exactions. Voilà pourquoi il est important ce matin, je crois, de comprendre aussi ce terme-là. Donc arrêtons-nous au premier terme, donc relâche, shemitah, remise. Donc la remise d'une dette, c'est une loi qui est établie par Dieu pour qu'il y ait une annulation de la dette. Ça veut donc dire que si je devais 100 000 $ encore à mon prêteur, lorsqu'on arrive à cette septième année dans le calendrier juif, on arrive à une année où, malgré l'importance de ma dette, cette dette-là m'est remise. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes redevables. Et nous sommes coupables en raison du péché que nous avons commis, en raison de la nature pécheresse que nous avons commise. Et Christ, qui nous a aimés, a payé pour nous notre rachat. Et nous lui sommes donc redevables. En venant à Christ, il efface l'acte de dette qui était posé sur nos épaules. Il efface la créance que nous avons à son égard et nous rétablit dans la pleine relation avec lui. Donc, une chose que tu dois savoir, c'est que Dieu veut effectivement annuler tes dettes. Et il nous importe à nous aussi, qui sommes imitateurs de Christ, d'être capables de remettre la dette de ceux à qui nous croyons avoir prêté, ou de ceux de qui nous croyons qu'ils nous sont dus en une matière ou en une autre. Je parlais tout à l'heure du pardon. Effectivement, parfois, lorsqu'on nous offense, on se croit intitulé à recevoir un pardon, à recevoir une demande de pardon, à recevoir des excuses. Lorsque j'attends les excuses de quelqu'un, ça veut donc dire que cette personne me doit des excuses. De surcroît à cela, comme on le disait tout à l'heure, lorsqu'on rend un service à quelqu'un, parfois il arrive que même si on prétend que ce service, on l'a offert gracieusement et qu'on n'attend rien en retour, certains d'entre nous attendent malgré tout un merci, attendent malgré tout un peu de gratitude, voire dans certains cas, attendent un retour de balancier. Je t'ai gratté le dos, gratte-moi le dos. Je t'ai servi, maintenant il faut que tu me serves. Alors, lorsque j'attends quelque chose de quelqu'un, ben à ce moment-là, cette personne m'est aussi débiteur ou m'est aussi un débiteur pour moi. Elle a une créance auprès de moi, elle a une dette auprès de moi. Et nous devons apprendre à annuler les dettes. Nous devons apprendre à passer l'éponge sur ce que nous croyons que les gens nous doivent ou sur ce que nous croyons que les gens devraient nous offrir comme réponse ou comme gratitude pour les actes, les paroles, les gestes qu'on pourrait avoir posés ou prononcés. Donc Dieu veut que tu apprennes à pardonner et quand tu pardonnes, tu annules complètement la dette. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu prends la décision comme quoi à partir d'aujourd'hui, voici, cette personne ne me doit plus rien. À partir d'aujourd'hui, je n'attends plus rien en retour pour ce que j'ai fait et en retour pour ce que je serai amené à faire vers le futur. La Bible va dire « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. » Alors, si j'aime la personne, je vais me donner pour la personne telle qu'on l'a vu la semaine dernière. Si j'aime effectivement mon prochain, je vais le faire passer avant mes propres besoins, mes propres nécessités. Et ce faisant, puisque je ne dois rien devoir à personne, ou il ne faut que je ne doive rien à personne, ben à ce moment-là, je ne dois que l'aimer et ne rien attendre en retour. Assurément, le fait que nous soyons appelés au pardon et nous soyons appelés à la rémission des dettes et à la remise ou à l'annulation des dettes, ça n'empêche pas la politesse. Tu ne peux pas être excusé du fait que tu es un impoli. Si on te donne quelque chose, la première chose à faire, c'est de dire merci. Si on t'offre quelque chose, la moindre des politesses, c'est de dire merci. Je vous donnais un exemple cette semaine lorsque j'écrivais concernant un outil que je suis allé acheter chez un particulier que lorsque je suis revenu, j'ai essayé l'outil à la maison, une pompe, elle fonctionnait vraiment bien. Donc, je me suis dit, je vais tout simplement envoyer un mot au monsieur pour le dire que tout fonctionne bien et le remercier. Et la personne m'a dit, merci beaucoup, ça nous fait plaisir votre mot et ça prouve votre belle éducation. Ça veut donc dire que mes parents ont été honorés par la politesse que j'ai offerte à ce monsieur-là. Parce que c'est pas moi qui me suis forgé ma propre éducation, c'est mes parents qui m'ont donné cette éducation. Alors lorsque moi je suis poli en raison de mon éducation, non seulement j'honore Dieu parce qu'il est main, il a la main mise sur qui je suis, mais de surcroît à ça, j'honore aussi les personnes qui ont contribué à faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, soyons polis, même si les dettes doivent être remises et même si la personne qui m'offre, elle est chrétienne et qu'elle devrait savoir qu'elle ne me doit rien que de m'aimer, mais ça ne m'empêche pas à moi de faire preuve de grâce, de faire preuve d'affection, de faire preuve de moindre politesse qui est à la base de dire merci. Deuxième terme, relâche, shemita, pour libération. Et la libération d'une dette, c'est différent d'une remise d'une dette. La remise d'une dette est une question tout simplement financière ou une question quantitative. Ça veut dire qu'on efface la quantité, on efface la dette qui m'était due. Lorsqu'on va parler de la libération d'une dette, c'est qu'on parle qu'on annule les conséquences inhérentes à la dette. Tout à l'heure, c'était simplement « voici, je dois tel montant ». Et lorsqu'on remet ce montant-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de dette. Mais lorsqu'on parle de la libération, c'est que dans un contrat de dette, on dit « voici, si tu ne me paies pas d'ici tel moment, il y a un taux d'intérêt qui s'applique, même si dans la Bible, il nous est clairement dit que si on prête à un frère, on ne devrait pas prêter avec intérêt. » C'est un verset qui est très clair, qui est, je pourrais vous le rechercher encore une fois, pour m'assurer de vous donner la bonne référence. Mais la Bible est claire, si on prête, on ne devrait pas prêter à intérêt. Mais parfois, le prêt est aussi fait avec non seulement un intérêt pécunier, mais de surcroît à cela, si tu ne me prêtes pas, si tu ne me rembourses pas, ben voici, j'ai un droit sur ceci ou cela. On voit l'exemple dans le cas de la femme veuve qui va s'approcher d'Élisée, en disant « mes créanciers veulent me prendre moi et mes enfants et faire de nous des esclaves ». C'est qu'elle avait une dette et cette dette étant incapable de la rembourser, la conséquence suivante c'était que puisque tu ne peux pas rembourser ta dette, alors nous allons te prendre toi et tes enfants et vous allez devenir esclaves à notre service. Donc, la libération des dettes, c'est non plus une libération simplement de la dette en soi, mais aussi des conséquences qui pourraient suivre la dette. Ça pourrait être aussi tout simplement, ben, cette personne-là ne m'a pas remboursé la dette, maintenant je lui en veux, je lui fais la tête, je ne lui parle plus. Cette personne-là, je lui fais une mauvaise réputation. Cette personne-là, j'avertis tous ses comparses autour d'elle de se méfier de cette personne. J'avise tous ses collaborateurs de surtout ne rien avoir à faire avec elle parce que cette personne n'est pas fiable. Lorsqu'on libère quelqu'un de sa dette, au-delà de la franchir ou de lui remettre le montant qui nous était dû, de surcroît cela, lorsqu'on libère, on se dégage de tout droit pour une rétribution autre que le montant qui nous était dû. Ça veut donc dire que je dis à la personne, non seulement j'efface ta dette, je remets ta dette, donc tu ne me dois plus rien, mais je ne te ferai subir aucune conséquence au fait que tu n'aies pas remboursé ta dette. Et ça, c'est un point dans lequel régulièrement on devrait réfléchir. On dit qu'on pardonne, mais notre pardon se fait malgré tout avec conséquence. On dit qu'on pardonne à un frère, à une sœur, mais ce faisant, je ne veux quand même plus lui parler, je ne veux plus lui adresser la parole, ou je le vois et je me mets avec un visage de marbre, voire même avec un visage acerbe, avec un visage qui est renfrogné, je lui fais comprendre que sa présence m'importune, je ne veux plus la voir. Ça, c'est une conséquence au fait de ne pas avoir payé sa dette. Alors, j'ai beau prétendre que j'ai pardonné à la personne, si je ne suis pas capable non seulement de remettre, mais de libérer la personne de sa dette, ça veut dire que je ne lui ai pas vraiment pardonné ou que je ne l'ai pas vraiment ni remis ni libéré de sa dette. La troisième conséquence ou la troisième connotation qui va avec cette lignée, on va juste un peu plus profondément, on atteint juste des sujets connexes. La remise, la libération. Le troisième terme, le pardon de la dette. La remise, donc j'efface le montant qu'il me doit. La libération, j'efface les conséquences inhérentes à sa dette. Mais le pardon d'une dette, c'est j'annule aussi le jugement et la culpabilité qui venait avec la dette. Il me doit de l'argent parce qu'il a mal géré son argent. Il m'est débitable parce qu'il a mal fait son travail. Il ne m'a pas remboursé parce que c'est un paresseux, parce que c'est un mal organisé, parce qu'il est maladroit, parce qu'il n'est pas sérieux, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. La culpabilité qui vient avec une dette. Je suis convaincu qu'aucun d'entre nous, lorsqu'on est passé par des moments difficiles, et je suppose que ça arrive à tous, très rares sont ceux qui n'ont pas eu une dette à un moment donné envers un proche, envers quelqu'un de la famille ou un ami. C'est pas évident d'aller voir quelqu'un puis dire, regarde, je suis dans les problèmes, est-ce que tu pourrais m'aider? Et il y a un poids, il y a une culpabilité, il y a une honte qu'on se place sur soi-même lorsque on va demander à quelqu'un de nous prêter de l'argent. Cette honte-là, on peut la magnifier, on peut l'amplifier par nos propos, par notre attitude, par notre côté un peu hautain de celui qui a été en mesure de prêter à celui qui n'avait pas, ou on peut agir avec pleine grâce, avec plein amour. Et c'est là où certaines personnes dans le Nouveau Testament vont, on va dire d'eux qu'ils ont le ministère d'être débonnaire, ils ont le ministère de l'hospitalité. Et je connais de tels gens. Je connais des gens qui sont prêts à donner, qui sont prêts à aider en n'importe quelle occasion et ça ne leur fait pas mal. Ils sont prêts à se priver même eux-mêmes de nourriture et à donner, puis ils ne sont pas en train de réfléchir à savoir, mais pourquoi cette personne vient me demander, est-ce qu'elle a fait ceci, est-ce qu'elle a fait cela? La personne dit, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, je sais qu'elle est dans un problème, et dans mon cœur, Dieu m'a mis ce quelque chose de particulier qui aime. On devrait tous être comme ça. On devrait tous prêter et ne pas avilir la personne. Malheureusement, très souvent, lorsqu'on va prêter, lorsqu'on va rendre service à quelqu'un, ça nous place en autorité jusqu'à un certain point au niveau de cette personne. Ça nous place en position de force par rapport à cette personne. Alors, réfléchissons un peu. Lorsqu'on vient demander de l'aide à quelqu'un, pour quelqu'un qui est pour un garçon, c'est souvent beaucoup plus difficile encore. Il est macho dans son caractère. Il a cette idée que un homme ne devrait avoir recours à personne. Il devrait se débrouiller par lui-même. Ça a été l'éducation par laquelle il a été élevé. Et là, il arrive à un moment donné où il est dans une impasse. Et il doit demander de l'aide et c'est très difficile. Alors, sachons, lorsque nous apportons de l'aide, être très humble dans notre façon d'apporter de l'aide. Sachons, dans la remise et dans la libération de la dette, ajouter aussi le pardon à la dette. Donc, l'annulation du jugement et de la culpabilité inhérent à la dette. Allons voir notre frère, puis disons-lui, regarde, oublie tout ça et faisons l'effort supplémentaire pour s'assurer que notre frère n'est pas dans une gêne, n'est pas dans une certaine culpabilité ou dans une certaine honte. C'est vraiment important. Je pense que beaucoup de nos frères ne feront pas appel à l'Église, ne feront pas appel à leurs frères en la foi, vont aller avoir recours à des choses qui vont les amener encore plus dans des problèmes, tout simplement parce qu'il y a une honte et il y a une certaine culpabilité à aller chercher de l'aide. Alors, sachons apporter de l'aide gratuitement, sachons pardonner gratuitement, sachons remettre, libérer et pardonner les dettes à notre égard. Lorsqu'on va parler de Shemitah, on va aussi parler de la fin des exactions. Ça veut dire que pendant le cours du paiement de la dette, exaction voulait dire un paiement exagéré ou trop lourd. Certains vont prêter en disant, regarde, je veux que tu me rembourses tel montant à chaque semaine. Et ce montant, on sait à la base qu'il est trop lourd pour celui à qui on a prêté. Donc oui, je crois que dans nos échanges avec nos frères et nos sœurs, il peut y avoir effectivement une entente où la personne nous dit, mais voilà, je vais te rembourser en tant de temps, je vais te rembourser de telle manière. Mais on doit s'assurer lorsqu'on prête, lorsqu'on accorde à notre frère, es-tu certain que tu peux faire cela? Tu vois, je préférerais qu'on baisse plutôt le montant et s'arranger pour aller trouver quelque chose qui facilite la personne et non pas lui mettre un joug et un poids supplémentaire que cette personne ne peut pas porter. Alors, lorsqu'on parle de la fin ou du relâche, du Shemitah, on parlait aussi de la fin des exactions, donc de la fin d'imposer un remboursement trop lourd à la personne, un remboursement qui est trop pesant pour ses capacités. Mais de surcroît à cela, et c'est le dernier terme qu'on verra aujourd'hui, c'était lorsqu'on parlait du Shemitah, le relâche, on parlait aussi de la fin de la rétribution, la fin de « tu me dois », la fin de « tu m'as fait ceci, alors moi je te fais cela », la fin de la loi du talion. C'était quoi la fin de la loi du talion? C'était « si tu ne m'as pas honoré comme tu devais m'honorer, alors moi je te déshonore. Si tu me parles mal, alors je te parle mal. » Œil pour œil, dent pour dent. Lorsqu'on parle de la remise des dettes, on ne peut pas passer outre la question du pardon, la question de pardonner notre frère. Donc, la fin des exactions, tant que la personne n'a pas présenté ses excuses, ben on oublie de lui faire payer un prix qui soit lourd. En fait, on ne devrait pas lui faire payer un prix pour ses méfaits. Et de surcroît à cela, lorsque la personne nous fait... ça fait bouger la caméra. Lorsque la personne n'a pas encore remboursé sa chose, on doit ne pas vivre avec le principe du talion, œil pour œil, dent pour dent. Pensons à ce que Jésus va nous enseigner. Pensons à ce que la loi de la grâce impose sur la vie du croyant. La loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. On t'a coupé une main, coupe la main de ton voisin. On t'a pilé sur le pied, pile sur le pied de ton voisin. Et Jésus va dire, lorsqu'on vous frappe sous la joue droite, offrez la joue gauche. Lorsqu'on vous malmène, lorsqu'on vient vous prendre votre manteau, donnez-en un deuxième. Lorsqu'on vient prendre votre pain, offrez-en un deuxième. Donc, la loi de la grâce, c'est de ne plus tenir compte de la dette. Lorsqu'on parle du relâche dans la pensée chrétienne, dans la pensée de l'exercice de la foi en Jésus, on parle donc de la fin des exactions, voire même de la fin de la rétribution. Et on nous dit, dans le verset 2, qu'on aura publié le relâche. Le relâche est quelque chose qui ne se fait pas dans le secret. Le relâche est quelque chose, est un engagement qu'on ne prend pas dans le secret. Pourquoi on ne le prend pas dans le secret? Parce qu'il est très facile de dire, bon, j'efface sa dette, mais si dans 2 semaines, la personne reprend encore ses mauvaises manies, sa mauvaise attitude, paf, on réinstaure la dette. De toute manière, je ne lui ai pas dit que je lui avais remis la dette. C'est juste entre moi et moi-même que je lui avais remis la dette. J'en ai même pas parlé à mes proches. Et voilà pourquoi il est important de publier, il est important de faire la publication de la dette, parce que nous sommes alors liés avec nos paroles. Au même titre où on accepte Jésus publiquement, au même titre où on s'engage auprès de Jésus publiquement à travers les eaux du baptême. Notre engagement à suivre les préceptes de Jésus doivent aussi se faire publiquement. Ça veut dire qu'effectivement, à l'occasion, on va être pris à défaut. Ça veut dire qu'effectivement, à l'occasion, quelqu'un va nous dire, « Ben, Florent, il me semblait que tu t'étais engagé à telle affaire et voici ce que tu as fait. » Et c'est très bien pour ma tête. C'est très bien pour moi-même. Parce que ça m'oblige à un sérieux dans mon engagement, ça m'oblige à revoir mes prises de position, à réorienter ma vie lorsque je prends un engagement solennel. Et voilà pourquoi l'année du jubilé, lorsqu'on va remettre les dettes, lorsqu'on va rétrocéder les terres, lorsqu'on va affranchir l'esclave ou le serviteur, lorsqu'on va libérer les gens des dettes qu'ils doivent, voilà pourquoi cela se fait de façon publique, pour qu'il y ait un engagement, non pas de celui qui doit, mais de celui à qui on doit, celui qui a été le créancier, celui qui a été le prêteur. Donc il est important, mon frère, ma sœur, que l'engagement que tu prends par rapport au Shemitah, par rapport au relâche, l'engagement que tu prends par rapport à obéir, à obtempérer, à te conformer à la loi du relâche, à la loi de Dieu concernant le pardon, il est important que cela se fasse de façon publique, qu'il y ait des gens avec qui tu sois lié dans la prière. Il y a 6 ans, je vous parlais d'une prière que j'ai faite avec mon épouse, où je disais au Seigneur, regarde Seigneur, ce que tu fais est correct, lorsque j'ai eu mon diagnostic de cancer il y a 6 ans. Cette prière-là, je tenais à la faire avec un témoin, qui était mon épouse, parce que je voulais à tout prix que non seulement ça soit un engagement entre moi et Dieu, mais ça soit aussi un engagement par rapport à moi et une personne qui m'était proche. Il y a quelque temps, j'ai eu à faire une prière un peu similaire dans un engagement sur un certain point dans ma vie, et j'ai tenu à faire cet engagement-là en prière officiellement, et j'avais 2 de mes collègues avec moi devant lesquels j'ai prié, j'ai prononcé des mots qui me lient par rapport aux paroles que j'ai prononcées. Alors, si tu aimes vraiment Dieu, si tu veux vraiment le servir, si tu veux vraiment t'engager avec Dieu en conformité à sa parole, ben l'engagement par rapport au pardon, l'engagement par rapport à la remise des dettes, l'engagement par rapport au Shemitah doit aussi se faire publiquement. Parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être remettre en question ton engagement. À un moment donné, tu vas peut-être avoir des doutes par rapport à « est-ce que j'aurais dû le faire ou pas ?» Tu vas avoir envie de remettre sur pied la dette, de restaurer la dette sur la tête de la personne. Et il ne le faut pas, Et pour éviter que tu reviennes en arrière, il est important que ta déclaration soit publique. Rappelons-nous, kara veut dire publication, mais kara veut aussi dire invoquer. Et l'invocation est un terme juridique. J'invoque cette loi-là, je me place sous la gouverne de cette loi-là, je me place sous la gouverne du Shemitah pour remettre la dette à mon frère, à ma sœur, pour pardonner adéquatement mon frère et ma sœur. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va prier, après ça on va saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Je remonte un peu pour être sûr de n'oublier personne. Attendez quelques instants, voilà. OK. Alors Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole qui vient nous secouer en ce début de semaine, assurément, qui vient aussi donner un éclairage, j'espère, frais sur la question du pardon et sur la question des remises des dettes. Et on comprend, Seigneur, que ça va bien au-delà d'une simple question financière. Ça va aussi toucher à des points comme les services ou le retour de service ou la gratitude, la reconnaissance que je crois qui me sont dues. Ça va traiter des choses comme ça. Ça va traiter des questions de pardon envers celui qui m'a offensé, envers celui qui m'a blessé, voire envers celui qui m'a malmené. Alors Seigneur, à chaque jour, nous voulons être un peu plus près de la stature parfaite de Christ. Cette stature parfaite, cet amour qui a été poussé à son comble lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples et lorsque Jésus sur la croix va dire concernant ses persécuteurs dans sa prière, Père, pardonne-leur. Alors Seigneur, nous voulons tendre à cette parfaite stature de Christ. Nous voulons être tes imitateurs afin que nous aussi soyons capables de dire publiquement, comme Jésus l'a dit dans sa prière publique à la croix. Des gens l'ont entendu dire cette prière. Nous voulons aussi, Seigneur, être capables de dire, Père, pardonne-leur. Et ne pas simplement te prendre toi à témoin, bien que on ne joue pas avec les promesses et avec les engagements et les pactes qu'on signe avec toi, mais nous voulons aussi, Seigneur, qu'il y ait un homme, une femme, des frères, des sœurs qui soient capables de venir nous dire à l'occasion, Florent, tu es en train de laisser tomber le pacte que tu avais pris. Florent, tu es en train de t'éloigner de l'engagement que tu avais pris. Florent, tu es en train d'abandonner la parole que tu avais prononcée. Alors je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère, je prie pour moi-même que nous soyons à même de prendre de tels engagements, de pardonner, de remettre une dette, de libérer d'une dette et de pardonner d'une dette tous ceux qui seraient pour nous des débiteurs, quelle que soit la dette, quelle que soit la créance. Alors arrose cette parole par ton esprit. Arrose cette parole par l'onction de ton esprit et qu'elle puisse s'enraciner dans nos pensées, dans nos façons d'être, dans nos façons de faire et qu'elle puisse être profitable pour nous-mêmes, mais aussi, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, saluons quelques personnes. Si je vous ai déjà salué un peu plus tôt, donc je ne répéterai pas votre nom. Et puis, si je ne vois pas votre nom, je suis déjà désolé de ne pouvoir vous saluer. Alors, on salue Babette et Andreas. On salue Rosie. On salue Linda. On salue Astrid. Bonjour Astrid, Dieu te bénisse. On salue ma tante Claudie. On salue Farley, Marie-André. On salue Nina et Rigoberto. On salue Adriana. On salue la sœur Teresa. On salue Marie-Huguette. On salue Tina, Christophe, les enfants. On salue Julie. On salue Maggie. On salue Sonny. On salue Denis, cette fois-ci de Laval. On salue Marie-Marthe, Georgette, Andrise. On salue Nadège. On salue Juan Ramon. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Alors voilà, c'était le message pour aujourd'hui. On vous rappelle, ce soir, il y a le cours avec le pasteur André sur le livre des Actes. C'est à 19 h, heure de Montréal. Et assurément, ce sera encore l'occasion d'apprendre de nos frères et de nos sœurs qui ont constitué l'Église primitive. Et pour nous, on se retrouve donc demain matin, 8 h 30 pour notre prochaine bénédiction.